Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous depuis le studio 8 de La Voix de l'Amérique à Washington DC. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les principaux titres. L'opposant Bassirou Diomaye Faye paraît se rapprocher au Sénégal d'une victoire à la présidentielle qui s'apparenterait à un séisme politique, mais le camp du pouvoir assure qu'il y aurait un second tour.
C'est tout le pays, c'est notre victoire, c'est votre victoire.
Présidentielle au Tchad, la candidature des principaux opposants au pouvoir est validée par le Conseil constitutionnel. Les médias au Tchad, défi majeur face aux coupures d'électricité à la hausse des coûts des carburants, avec risque de fermeture pour certains.
Depuis deux mois presque, nous utilisons deux fûts de gasoil pour trois jours. Allez-y comprendre.
Le dialogue national au Gabon, annoncé pour le 2 avril, malgré les demandes de report, priorité à la restauration des institutions.
Nous ne voulons pas bâcler cette étape.
Initiative de paix au Burkina Faso, les jeunes favorisent le dialogue interreligieux pendant le jeûne musulman et le carême chrétien.
C'est très intéressant, chrétien, musulman, ça veut dire qu'on est tous pareils.
Au Nigeria, libération de plus de 130 élèves enlevés début mars. Le chef de l'ONU appelle à mettre fin au cauchemar vécu par la population de Gaza. Attaque de Moscou qui a fait au moins 137 morts. Les quatre assaillants présumés placés en détention provisoire pour deux mois. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant de journal. Au Sénégal, l'opposant Bassirou Diomaye Faye est en tête des tendances préliminaires de la présidentielle selon les médias locaux après la fermeture des bureaux de vote à 18h en temps universel. La plupart des autres candidats ont déjà félicité le candidat de la coalition Diomaye 2024. Cependant, le candidat du parti au pouvoir Amadou Ba n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet. Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. Il faut la majorité absolue des suffrages exprimés pour l'emporter au premier tour. À défaut, les deux premiers disputent un second tour dont la date n'est pas fixée. La correspondance de Wahani Johnson Sambou.
Avant même la fin du dépouillement de tous les bureaux de vote, plusieurs candidats de l'opposition ont félicité Bassirou Diomaye Faye. Khalifa Sall, Mamboui Diao, Déthié Fall, le professeur Daouda Ndiaye ou encore Anta Babacar Nguom ont tous reconnu la victoire du candidat de l'ex-parti PASTEF porté par Ousmane Sonko. Mais le camp du pouvoir et son candidat Amadou Ba refusent encore pour l'instant de jeter l'éponge et disent attendre la proclamation des résultats officiels pour se prononcer sur l'issue de cette présidentielle. Pourtant, les premières tendances placent largement le candidat Bassirou Diomaye Faye en tête. Certains médias et observateurs, se basant sur les chiffres issus de plusieurs centres de vote du pays, annoncent même une victoire avec une large avance sur Amadou Ba. Les autres protagonistes arrivent loin derrière. À l'annonce des premiers résultats, les supporters de Bassirou Diomaye Faye sont descendus dans les rues du pays pour jubiler. Pour eux, les chiffres ne font aucun doute. Leur candidat est le nouveau président de la République du Sénégal. Les prochaines heures seront certainement décisives pour la suite. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain, comprenant 10 candidatures, dont celle du président de la transition Mahamat Idriss Déby et son premier ministre Succès Mastra. En revanche, 10 autres candidatures ont été rejetées. Le point avec André Kodmadjinga.
Parmi les 10 candidatures retenues, il y a celle du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, âgé de 39 ans. Le Conseil constitutionnel trouve qu'il remplit toutes les conditions puisqu'il s'est mis en disponibilité de l'armée. Son premier ministre, Dr Succès Mastra, âgé de 41 ans, a lui aussi vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel qui estime qu'il a résidé pendant un an au moins au Tchad sur les 3 dernières années de manière continue. C'est la première fois qu'un président et son premier ministre vont se disputer le fauteuil présidentiel au Tchad. L'ancien premier ministre Albert Paimi Padake est aussi sur la liste validée par le Conseil constitutionnel. De même que l'unique femme Lydie Biasumda qui dirige le parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale. Parmi les candidatures rejetées, il y a celle de Nassour Ibrahim Koursami, candidat du GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, un groupe de partis politiques qui s'oppose au régime de transition depuis sa mise en place. La campagne électorale pour le premier tour commence le 14 avril pour prendre fin le 4 mai. Un prochain, André Kodumadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Au moins 11 personnes ont été tuées samedi dans une double attaque attribuée aux rebelles ADF autour de la ville de Beni dans l'est de la RDC, a-t-on appris dimanche de sources administratives locales. Depuis le début de l'année, nous ne faisons qu'enregistrer des morts et des enlèvements en moins de 3 mois. Ça dépasse les 180 victimes, précise un notable du territoire de Beni. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique qui reconnaît les ADF comme sa branche en Afrique centrale. Près de 140 élèves victimes début mars d'un des plus importants enlèvements de masse enregistrés ces dernières années au Nigeria ont été libérés sains et saufs, ont annoncé l'armée et les autorités locales dimanche. Le nombre de victimes avait précédemment été estimé à environ 250 par les enseignants et les villageois. Le président Bola Ahmed Tinubu a salué le dévouement infatigable de ceux ayant œuvré à leur dénouement. Le président assure que les Nigériens, que son administration met en œuvre des stratégies précises pour que les écoles restent des sanctuaires d'apprentissage et ne soient pas des repères pour des enlèvements, a dit son porte-parole. Le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche Israël à lever les derniers obstacles à l'entrée de l'aide à Gaza et à un cessez-le-feu pour mettre fin au cauchemar de la population après 5 mois et demi de guerre entre Israël et le Hamas. Les précisions de Gabi Dorsine.
En visite en Égypte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël à lever les derniers obstacles à l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire. Il a appelé à mettre fin au cauchemar sans fin vécu par les Gazaouis. Ces souffrances doivent prendre fin, a-t-il affirmé, en réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat, ainsi que la libération immédiate de tous les otages retenus à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre. Les bombardements israéliens et les combats font toujours rage dans le territoire palestinien assiégé et au bord de la famine, alors que les négociations sur une trêve ne montrent aucun signe de progrès. Dimanche, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, était à Washington au moment où les États-Unis redoublent de pression sur Israël pour parvenir à un cessez-le-feu accompagné de la libération d'otages ainsi que l'entrée d'une aide humanitaire accrue à Gaza.
Le président français Emmanuel Macron a haussé le ton dimanche envers le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, marquant à nouveau sa ferme opposition à une offensive israélienne sur Rafah et avertissant que le transfert forcé de population constituait un crime de guerre. Lors d'un entretien téléphonique, il a aussi fait part à Netanyahou de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et durable. Alors que la Russie observait une journée de deuil national, le gouvernement américain a affirmé dimanche qu'il n'y avait aucune implication ukrainienne dans le massacre au Crocus City Hall à Moscou, après que le président russe Vladimir Poutine eut évoqué un lien avec l'Ukraine. Les 4 assaillants présumés à l'origine de cette attaque, qui a fait 137 morts, ont été placés dimanche en détention provisoire pour 2 mois par un tribunal de la capitale russe. John Lyndon.
Il n'y a aucune preuve selon laquelle l'Ukraine est impliquée dans le massacre qui a fait au moins 137 morts et le groupe État islamique responsable, a retorqué la vice-présidente américaine Kamala Harris lors d'un entretien télévisé dimanche. L'État islamique porte l'entière responsabilité de cet attentat. Il n'y a eu aucune implication ukrainienne, a renchéri dans un communiqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Washington répond à la locution samedi de Vladimir Poutine, qui avait dénoncé un acte terroriste barbare et annoncé que les 4 auteurs de l'attentat avaient été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, sans mentionner la revendication du groupe djihadiste État islamique. L'Ukraine a par ailleurs rejeté toute implication dans cette attaque. Survenue vendredi dans une salle de concert de Moscou, cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années et la plus sanglante à avoir été revendiquée par l'État islamique en Europe.
John Lyndon, les 4 assaillants présumés à l'origine de cette attaque ont été placés dimanche en détention provisoire pour 2 mois par un tribunal de Moscou. Des équipes de secours œuvraient dimanche sous une pluie battante pour venir en aide aux victimes de la violente tempête et des fortes pluies qui frappent depuis vendredi le sud-est du Brésil, notamment les états d'Espírito Santo et de Rio de Janeiro, faisant au moins 25 morts. Dimanche, le niveau de l'eau a toutefois baissé après une nuit pratiquement sans pluie, ce qui a permis aux secouristes de se rendre dans des zones jusqu'alors inaccessibles, a précisé le gouverneur régional sur les réseaux sociaux. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Le rapport annuel de la Fédération internationale de l'industrie phonographique indique que le marché mondial de la musique enregistrée a connu une 9e année de croissance en 2023. Son chiffre d'affaires a atteint 28,6 milliards de dollars. La diffusion en continu représente près de la moitié des ventes avec une hausse de 11% des abonnements streaming comme Spotify, Apple Music ou Deezer. L'on comptait 667 millions d'utilisateurs de comptes payants fin 2023. Le Brésil a abaissé cette semaine pour la 6e fois consécutive son taux directeur à 10,75%. Parmi les autres membres des BRICS, l'Inde n'entrevoit pas de baisse de taux en raison d'une inflation supérieure à l'objectif de 4% fixé par sa banque centrale. La Chine a baissé l'un de ses taux directeurs en juin 2023. En Afrique du Sud, la banque centrale vise une inflation entre 3 et 6%. Selon le rapport Global E-Waste Monitor de l'ONU, moins d'un quart des 62 millions de tonnes de déchets électroniques produits en 2022 ont été recyclés, entraînant des pollutions de métaux lourds, de plastique et de produits chimiques toxiques. Ces déchets présentent des risques importants pour la santé, notamment dans les pays en voie de développement où leur traitement est le plus déficient. Moins de 1% est recyclé correctement en Afrique, souvent dans des environnements informels sans équipement approprié où les travailleurs sont exposés à des substances dangereuses, pointe le rapport.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Bonjour Erika et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le programme de ce lundi des matchs amicaux des sélections africaines.
Oui, et on aura Burundi-Botswana, Madagascar-Rwanda, Gabon-Congo et Comores-Angola. Précisons que cette trêve internationale permettra aussi à certaines sélections de disputer des rencontres de la FIFA Série, compétition en phase de test que l'instance du foot mondial veut lancer dans 2 ans. Et en attendant, le Cap-Vert jouera ce soir la Guinée équatoriale.
À Amiens, c'est en France, Élisée, la Côte d'Ivoire et le Bénin n'ont pas réussi à se départager.
Tout à fait. Et les récents champions d'Afrique ont été accrochés par les Guépards qui n'étaient pas présents à la CAN, score 2-2. Steve Mounier, le capitaine béninois, est satisfait de ce résultat.
Je suis vraiment fier de mes partenaires. On a réalisé une très belle prestation face aux champions d'Afrique. Et c'était important pour nous de faire des matchs positifs, d'engranger de la confiance, parce que voilà, on n'était pas présents lors de cette dernière CAN qui était magnifique. Et on n'a plus envie de louper les grandes fêtes africaines. On n'est pas venu là pour célébrer leur titre, hein. On n'était pas là pour se faire laminer face à cette équipe et on voulait leur montrer que nous aussi on était capable d'avoir du répondant, qu'on était capable de montrer de belles choses et je pense qu'on l'a fait avec 2 super buts de la part de Junior Olaitan qui a été exceptionnel ce soir. Donc voilà, c'est un match nul je pense qui est mérité de chaque côté et voilà, on va essayer de se servir de ça pour avancer.
Il faut rappeler que ça fait le 13e match de suite sans victoire pour le Bénin. Ce mardi, l'équipe entraînée par Guénot Roche jouera contre le précédent champion d'Afrique, le Sénégal, pendant que la Côte d'Ivoire se frottera à l'Uruguay. À noter que hier, l'Éthiopie a battu le Lesotho 2-1.
Le sport, Élisée, on doit aussi parler des 13e Jeux africains qui ont pris fin à Accra, au Ghana.
Oui, c'était le samedi, réunissant quelques 5000 athlètes dans 29 disciplines sportives. La capitale ghanéenne a été le théâtre de rencontres sportives palpitantes pendant près de 2 semaines. L'Égypte arrive en tête des médailles, 189 dont 101 en or, de bon augure avant de recevoir la prochaine édition prévue en 2027. Le Nigeria arrive en deuxième position avec 120 médailles, puis l'Afrique du Sud pour compléter le podium avec 106 au total.
Et c'est la fin de la page des sports signée Élisée Sonia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizade retourne avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, les partisans de Bassirou Diomaye Faye manifestent leur joie et revendiquent la victoire de leur candidat, bien que les résultats officiels de l'élection présidentielle de dimanche n'aient pas encore été annoncés. La plupart des autres candidats ont déjà adressé leurs félicitations à l'opposant, mais le candidat du parti au pouvoir n'a pas encore réagi. Le reportage à Dakar de notre correspondant Wahni Johnson Sambou.
Les klaxons et chansons à la gloire de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont retenti toute la nuit. Dakar et ses environs ont pris les allures d'un concert géant. Ils étaient plusieurs milliers à descendre dans les rues de la capitale et dans d'autres grandes villes du pays pour manifester leur joie après l'annonce des premières tendances de la présidentielle de dimanche.
On est tellement fiers et contents. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, en venant ici, c'est faire un appel à Amadou Ba pour qu'il appelle le président élu par le peuple sénégalais, dès le premier tour par une écrasante majorité, Bassirou Diomaye Faye, de l'appeler dans la grande tradition sénégalaise, dans la grande tradition républicaine, parce que c'est irréversible. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République.
C'est tout le pays, c'est notre victoire, c'est votre victoire, Sounou victoire. Vive la République, un peuple, un but, une foi, et le Sénégal pour toujours. Et merci Sonko pour le projet, merci Diomaye pour le projet. Diomaye, moi et Sonko, ouais!
Pour ses partisans de Bassirou Diomaye Faye, rien ni personne ne peut changer la donne. Ils sont confortés par presque tous les autres candidats qui ont félicité leur adversaire de l'ex-parti PASTEF, à l'exception de quelques-uns, parmi lesquels celui du pouvoir Amadou Ba. Ce dernier donne rendez-vous à ses partisans ce lundi pour donner sa position au moment où les observateurs indépendants avaient salué dans la journée le bon déroulement du scrutin de dimanche. Cyril Guégan-Tchassep, observateur.
Très très bonne impression parce que aujourd'hui le Sénégal vient encore une fois de plus de démontrer sa maturité politique, de démontrer un peuple qui a soif de la démocratie, un peuple qui comprend les enjeux démocratiques et qui a envie d'avoir un pays aujourd'hui vraiment en voie de développement en respectant les règles basiques de la démocratie.
Désormais, tous les regards sont tournés vers la Direction générale des élections qui devrait publier les résultats provisoires au plus tard vendredi prochain à minuit. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, le dialogue national inclusif annoncé par les militaires au pouvoir est prévu le 2 avril prochain. Malgré les demandes de report des discussions par des acteurs politiques et de la société civile, le calendrier reste inchangé. Le temps presse et le gouvernement de transition se donne un mois pour restaurer les institutions du pays. Selon les autorités, l'agenda du dialogue sera dense et laissera peu de place aux questions de réparation évoquées pour les victimes de violences post-électorales. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Face à la presse, Muriel Mukwemitsa, ministre gabonaise de la réforme des institutions, justifie l'urgence d'aller au dialogue dès le 2 avril. Avec plus de 30 000 contributions enregistrées, le gouvernement pense que l'organisation des assises est parfaitement bouclée.
Nous voulons que les Gabonais s'expriment. Ils ont commencé à s'exprimer à travers les contributions. Nous allons, sur la base de ces contributions, débattre au dialogue pour sortir ce qu'il y a de meilleur.
Si le gouvernement s'engage à mettre en œuvre les conclusions qui sortiront des échanges, il ne semble pas prêt à ouvrir le débat sur une commission vérité et réconciliation.
Nous ne voulons pas bâcler cette étape. Les contributions qui ont évoqué ce sujet seront, je l'espère, rassemblés pour qu'il y ait une conclusion qui invite les autorités, après la transition, de mettre en place cette commission.
La transition évacue un sujet pourtant au centre des priorités de plusieurs forces vives invitées au dialogue. Le président de l'association des personnes handicapées fait partie de la longue liste des victimes des violences politiques au Gabon. Julien Niaré, président de l'association des personnes handicapées.
Je pense qu'il faut qu'on parle de ce que la politique a provoqué, c'est-à-dire des morts d'hommes. Mais déjà, en 2009, là, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des morts à Port-Gentil. Au sein de notre communauté des personnes handicapées, nous avons perdu des membres là-bas, des sourds. Mais comme eux, ils n'entendaient pas, on a tiré dessus. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Hein. Le premier responsable, c'est d'abord le PDG, dont le système qui nous a dirigés. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus.
Le dialogue national qui s'ouvre dans quelques jours est une chance unique pour la reconstruction d'un nouveau Gabon. C'est du moins la conviction de l'ancien Premier ministre Julien Corbet-Calé. Pour lui, la stigmatisation de l'ex-parti au pouvoir doit cesser.
Les rancœurs légitimes, même les plus tenaces, ne doivent pas nous enchaîner au passé. Aujourd'hui, le plus important est d'apprendre nos erreurs et de nous engager vertueusement vers l'essor et la félicité du Gabon.
Le bureau comporte 28 membres avec l'archevêque de Libreville, Mgr Iba Aba, à la présidence. À noter que seules les conclusions compatibles avec la charte de la transition en vigueur, qui a été écrite par les putschistes, pourront s'appliquer. Les autres devront être mises en œuvre après les prochaines élections dont on attend la date puisque ce dialogue doit entériner un calendrier définitif. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Tchad, les médias opèrent dans des conditions extrêmement difficiles, confrontés à des pénuries d'électricité qui obligent les responsables des médias privés à recourir à des générateurs. Cependant, même cette solution est entravée par l'augmentation du prix des produits pétroliers. Certains médias ont déjà commencé à réaménager leurs programmes, tandis que d'autres risquent de fermer si la situation ne s'améliore pas. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Notre générateur fonctionne 24 heures sur 24 et depuis 2 mois presque, nous utilisons 2 fûts de gasoil pour 3 jours. Allez-y comprendre.
Dikourniga Kautar Lazar, coordonnateur général de la radio FM Liberté, une radio partenaire de la VOA Afrique. Pour lui, si la situation ne s'améliore pas, il risque de mettre la clé sous le paillasson, car 2 fûts de gasoil tous les 3 jours coûtent 351 200 francs CFA.
Parce qu'on ne peut pas tenir le coup. 2 fûts de gasoil pour 3 jours, c'est quand même trop sévère pour une petite radio comme la radio FM Liberté. Et surtout que les générateurs, même ont un âge de 12 ans presque. Donc voilà la difficulté. Les consommateurs que nous sommes, nous avons souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec cette société. Donc cette société n'a pas obéi à son obligation de nous donner du jus. Donc nous sommes prêts à déposer une plainte contre la SNE.
L'augmentation du prix du carburant à la pompe vient s'ajouter aux nombreuses autres difficultés, notamment le problème de trésorerie que rencontrent les entreprises de presse audiovisuelle, a indiqué Djouda Alaoundoum, président du patronat de la presse tchadienne.
Nous sommes obligés de faire un planning pour s'adapter un peu à la situation. Donc cette situation crève un peu les économies des médias en ce moment. Je crois qu'en 2015, quand une telle situation est intervenue, Faure Maréchal avait demandé au Premier ministre à l'époque de doter tous les médias de carburant. Un fût de carburant a été donné à chaque organe de presse pour lui permettre de résister un temps soit peu. Mais aujourd'hui, nous avons des responsables au plus haut niveau de l'État qui considèrent les médias comme de l'opposition, alors que nous sommes le baromètre de cette démocratie tant chantée.
Une situation qui a amené le patron des radios privées du Tchad à demander au gouvernement un appui financier spécial pour permettre aux médias privés de couvrir l'élection présidentielle du 6 mai prochain, mais pas de réponse des autorités de transition pour l'instant. Une situation qui n'est pas sans conséquence également sur les médias imprimés. Njendoro Mbaininga est le coordonnateur du journal N'Djamena Hebdo.
Les journaux commencent à tirer le diable par la queue avec un environnement économique qui ne nous aide pas à réaliser nos activités. Tout cela réunit, c'est que les journaux, de manière générale, et plus particulièrement N'Djamena Hebdo, nous sommes en train de mourir parce que c'est asphyxiant le prix du carburant. Ce produit-là est nécessaire à tout développement.
Et c'est dans cette situation peu reluisante pour la presse tchadienne que l'autorité de régulation vient de suspendre 31 médias pour arrêt de parution et non-respect du dépôt légal. Le ministre de l'Énergie, Mme Dogonan Bakasri-Rajum, justifie le manque d'électricité dans la ville par un acte de sabotage constaté à la centrale électrique située dans un quartier périphérique de N'Djamena. Selon elle, des individus mal intentionnés ont coupé les câbles qui devaient alimenter 14 mégawatts, plongeant ainsi la ville dans le noir depuis quelques jours. Une information judiciaire est ouverte pour retrouver les coupables, a-t-elle dit. André Koduma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, une initiative vise à promouvoir la paix et l'union, la tolérance et le vivre ensemble en période de crise sécuritaire. Des jeunes organisent une rupture collective entre musulmans et chrétiens pendant le jeûne musulman et le carême chrétien. Cette initiative est saluée par les participants. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Il est juste passé de quelques minutes. L'imam du jour donna le ton marquant la rupture pour les musulmans. Mais ici, il n'y a pas seulement que des musulmans, aussi des chrétiens catholiques, protestants et notabilités coutumières. Si le jeûne musulman et le carême chrétien coïncident, il fallait aussi penser à une rupture collective entre ces différentes confessions religieuses.
Merci à toutes et à tous. Ouais.
Ici, il n'y a pas de barrière religieuse. Chacun pratique sa foi dans le respect de celle de l'autre. Musulmans comme chrétiens trouvent l'initiative intéressante. Abdelkader et Nicole saluent l'initiative.
J'ai décidé de venir à cette rupture collective parce que bon, c'est très intéressant de voir chrétiens, musulmans. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Avant de mettre les religions, ça veut dire qu'on peut tous vivre ensemble.
C'est une très belle initiative. Je suis très contente. Voilà. C'est ma première fois de participer, mais vraiment, c'est très important.
Amos Zongnaba est chrétien protestant. Il a fait le déplacement pour lui aussi soutenir le vivre ensemble.
Nous savons qu'au Burkina, il y a plusieurs, j'allais dire, confessions religieuses. Et ces confessions religieuses vivent dans une parfaite harmonie. C'est important que les Burkinabés puissent se souder. C'est important d'avoir ce type d'initiative qui montre que le vivre ensemble qu'il y a entre les Burkinabés. Et donc, nous sommes très réjouis.
L'idée de la rupture collective est portée par de jeunes comme Mamadi Ouedraogo. Ils estiment qu'au-delà des religions, le Burkina doit continuer à exister.
L'idée, c'est vraiment se retrouver au-delà de nos divergences, au-delà de notre diversité ou de notre appartenance religieuse. C'est dire que nous sommes des Burkinabés. Le Burkina, c'est notre pays. Nous sommes une famille, travaillons main dans la main, restons ensemble. On est d'abord Burkinabés avant d'être religieux. Parce que le Burkina Faso, c'est notre pays. C'est le pays qui nous porte. Donc nous vivons ici. C'est pour dire que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit différent, que chacun ait son appartenance religieuse. Mais le final, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui est le plus utile aux autres. Donc pour nous, le meilleur des Burkinabés, c'est celui-là qui est utile au Burkina Faso et au Burkinabé et à l'humanité tout entière.
Au moins 1000 personnes ont participé à cette rupture collective entre musulmans, chrétiens et coutumiers. L'activité qui n'est qu'à sa deuxième édition se poursuivra les prochaines années, selon ses initiateurs, dans le but de toujours promouvoir la paix et la tolérance religieuse. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Voilà, c'est sur ce reportage de Lamine Traoré que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro, à la mise en onde de Fatouma Alimas Kalala. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine. We'll be right back.